Point de mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Christa Leuc.
À l'occasion des Journées de la Rose, Canal Académie s'est rendu à l'abbaye royale de Chaly, qui est située à une quarantaine de kilomètres au nord de Paris, au cœur de la forêt d'Herménonville, avec son château, son abbaye cistercienne, fondée au XIIe siècle par le roi Louis VI, et son parc, et bien sûr, sa roseraie. Tout au début du XXe siècle, Nelly Jacquemart-André acquit Chaly et, à sa mort en 1912, la légua à l'Institut de France. Ce domaine enchanteur appartient aujourd'hui à la Fondation Jacquemart-André, tout comme le musée du même nom à Paris, dont Jean-Pierre Bablon, membre de l'Institut, est président. Pour une visite des lieux, Canal Académie a invité Jean-Marc Vasseur du service des activités pédagogiques de l'Institut. Bonjour Jean-Marc Vasseur.
Bonjour.
Vous connaissez Chaly dans ses moindres recoins, c'est un peu votre château. Alors si vous voulez bien, nous allons faire le tour du propriétaire en quelque sorte.
Bien, je n'aurais pas la prétention de dire qu'on peut connaître Chaly tant le nombre d'objets contenus dans le musée est important, mais encore plus tant ce site est d'une extrême richesse. Il est, je dirais, protéiforme, et selon les moments, selon les jours, les heures même, eh bien, nous sommes attirés par des aspects différents d'un site qui est, selon l'expression de M. Jean-Pierre Bablon, un site magique.
On peut le dire, je le confirme.
Dans les textes d'ailleurs du Moyen-Âge, on disait de Chaly que c'était un endroit plus agréable que toute autre cité et qu'il était assiégé par des troupes de saints, à l'instar même d'un paradis. Ce texte du Moyen-Âge nous permet évidemment d'évoquer l'origine médiévale de l'abbaye royale de Chaly. Auparavant, c'était un prieuré dépendant de Vézelay. Et très rapidement, donc, nous allons bénéficier d'une filiation tout à fait impressionnante, puisque nous devenons filles de Pontigny. Hein. C'est-à-dire que dans le système des abbayes cisterciennes, il y a des relations entre mère et fille. Et donc, nous-mêmes, nous devenons filles de Pontigny. Seconde fille de Cîteaux, en 1136, l'abbaye royale de Chaly est fondée par Louis VI le Gros, comme vous le disiez parfaitement tout à l'heure. Et l'influence bourguignonne va se faire sentir tout au long des siècles suivants. Ceci dit, il ne faut pas oublier que nous sommes près des grands chantiers franciliens, Notre-Dame de Paris bien sûr, et l'architecture des lieux s'en ressentira.
Et les restes sont aujourd'hui, on les trouve dans l'abbaye.
Voilà, dans un fond de vallée humide, en forêt, près de l'eau, comme dit Bernard, hein, loin de toute habitation, se sont installés très rapidement les bâtiments claustraux. Ils sont orientés, si j'ose dire, parce qu'orientés, ça veut dire vers l'Orient, vers l'Est, disant qu'ils sont dirigés vers le Nord, ce qui n'était pas tout à fait intéressant pour les moines qui se gelaient évidemment dans les réfectoires et les dortoirs. On disait qu'à Chaly, on n'avait jamais mal aux dents, parce qu'avant d'arriver jusqu'au bout du réfectoire, la nourriture était déjà complètement glacée. En tous les cas, très rapidement, les bâtiments de pierre sont édifiés et l'église a probablement été d'ailleurs l'objet d'une seconde reconstruction à la fin du XIIe ou au début du XIIIe. Alors c'est vrai qu'actuellement, nous n'en avons que les restes, à savoir donc une petite partie du transept nord, l'abside, et un fragment du mur qui se situe entre la galerie du cloître et l'église. Par contre, beaucoup plus intéressant pour nous, je parle des visiteurs, non pas des chercheurs, évidemment, dans le domaine du bâti, mais pour les visiteurs, c'est la petite chapelle, la chapelle Notre-Dame, que l'on appelle depuis parfois la chapelle de l'abbé, et qui a été édifiée donc au milieu du XIIIe siècle, entre 1245 et 1255, sur le modèle même de la salle du trésor de la Sainte-Chapelle de Paris. C'est le même maître d'ouvrage qui ordonne d'ailleurs cette Sainte-Chapelle, il n'est autre que Louis IX, Saint-Louis.
Et qu'on appelle aussi la petite Sixtine du Valois.
Voilà, alors là, vous
car
me faites...
il y a une superbe fresque qu'on peut admirer dans cette chapelle.
Voilà, alors là, vous me faites faire un saut considérable dans le temps. Et si vous le permettez, je vais faire une petite pause avant d'en arriver au XVIe siècle, au milieu donc du XVIe. Je voudrais évoquer quand même des personnages tout à fait importants qui ont vécu à Chaly, entre autres un écrivain, qui se nomme Guillaume de Digulville. Digulville tout simplement parce qu'il est né dans un petit village qui se trouve dans le Cotentin, donc en Normandie. Et Guillaume va rester à peu près toute sa vie, après quelques études au collège Bernard, il va rester toute sa vie à Chaly. Il va écrire des ouvrages tout à fait remarquables, dont le roman de Fleur de Lys, peut-être on aura l'occasion d'en parler un autre jour. Et en tous les cas, c'est Le Pèlerinage de Vie Humaine, par exemple, deviendra le best-seller de l'époque de Charles V ou de Charles VI. Il est connu dans l'Europe entière, traduit en anglais, traduit en flamand, en allemand. Et je crois que ça serait faire injure, n'est-ce pas, à un des grands écrivains du Moyen-Âge que de l'oublier. Alors en plus, il a vécu à Chaly, évidemment, je ne saurais passer sous silence une telle célébrité.
Vous me parliez tout à l'heure d'une autre célébrité, Torquato Tasso, qui est passée par Chaly également.
Voilà. Donc, Torquato Tasso, effectivement, est venu. Alors, pour se recadrer un petit peu dans la chronologie, nous allons donc arriver directement en 1516. Un an après Marignan, François Ier a reconquis ses pommes d'or du jardin milanais contre la fausse Sforza en battant les Suisses. En 1516 a lieu ce qu'on appelle un concordat, une signature, un traité entre le pape et François Ier, donc le roi, qui donne au roi la possibilité de nommer au grand titre ecclésiastique, donc les évêques, les archevêques, les cardinaux, les abbés. Et en 1541, là on arrive effectivement dans une période qui pour nous est tout à fait passionnante. En 1541, François Ier offre l'abbaye de Chaly à son ami et cousin, avec qui il partage le petit déjeuner tant au Louvre qu'à Fontainebleau. Et cet ami n'est autre que Hippolyte de d'Este, le fils de Lucrèce Borgia, le petit-fils d'Alexandre VI. Un personnage tout à fait extraordinaire, un homme de culture, un homme très puissant. Il possède plusieurs abbayes. Il sera archevêque de Lyon, donc primat des Gaules en quelque sorte, de l'église gallicane française, évêque d'Auch, abbé de Saint-Médard de Soissons, de Lompon, enfin bref, la liste est fort longue. Un homme puissant aussi, donc, de par ses revenus. À la suite des travaux qui ont été effectués récemment, on a même su qu'on avait été échangé contre deux ouvrages de l'orfèvre italien de la Renaissance. Vous savez, cet artiste extraordinaire, en même temps, c'est un femme crapule, qui s'appelait Benvenuto Cellini. Donc, on a été échangé contre un plat d'argent et une aiguillère, c'est tout à fait honorable. Et François Ier ajoutait d'ailleurs à ce moment-là, avec une telle aiguillère et un tel plat, il me manque la salière. Et c'est ainsi que cette idée de salière s'est mise en place. Et vous savez évidemment que ça fait partie des plus belles réalisations de l'orfèvrerie de la Renaissance.
Serait cette fameuse salière qu'on a dérobée cruellement au musée de Kunsthistorisches Museum à Vienne.
Vous le prononcez
beaucoup. Et qui coûte presque la place à son directeur.
Eh bien, vous avez raison. C'est bien cette
c'est
salière.
C'est bien cette salière. Non. Formidable. Ouais. Mais je vois qu'on a affaire à un vrai historien.
Alors, si vous permettez, donc, assez rapidement, Hippolyte va s'installer dans l'abbaye qu'il a en commande, comme on dit. Alors, la première chose qu'il fait, d'ailleurs, c'est de mettre des cadenas un peu partout. C'est vraiment le symbole de la propriété. Et autre symbole, il fait installer son blason, là aussi, à différents points de l'abbaye. On le retrouve, d'ailleurs, encore maintenant, au-dessus de l'Annonciation, sur le porche de Serliot qui abrite la roseraie. Et bon, je pense que ce n'est pas forcément là le temps de disserter à propos d'héraldique, mais ça serait, je crois, une occasion peut-être ultérieure, dans une occasion ultérieure intéressante
tout
de développer.
Tout à fait, absolument. Et on peut prendre rendez-vous déjà. Mais on peut faire tout de suite un saut, donc, au début du XXe siècle, quand Chaly fut acheté, et fut donc la demeure de Nelly Jacquemart André, une femme artiste, collectionneuse, grande voyageuse, et elle nous laisse une collection d'art des plus prodigieuses, avec un ensemble de plus de 4000 pièces rassemblées sur les deux étages du château, devenu aujourd'hui le musée de Chaly. Alors, il y a des peintures, sculptures, des bustes, coffres, cabinets, tapisseries, manuscrits. Vraiment une extrême richesse couvrant plusieurs siècles d'histoire de l'art. Alors, quels sont vos coups de cœur, si vous voulez, vous qui pratiquez la maison de Nelly quasiment quotidiennement?
Je vais encore être un empêcheur de raconter en rond, si j'ose dire, parce que j'ai oublié quand même je ne peux pas oublier de vous parler des fresques de notre Sixtine. Ces fresques, donc, ont été réalisées autour des années 1544, et on le sait maintenant, elles sont l'œuvre d'un des plus grands artistes italiens de la Renaissance, c'est-à-dire de Primatis. Donc les visiteurs auront l'exceptionnelle chance de découvrir ces fresques, aussi bien donc l'Annonciation qui se trouve au revers de la rosace, que les apôtres, les évangélistes, les pères de l'Église qui sont peints sur les boutins. À cela ajouter bien sûr les anges qui tiennent les instruments de la Passion. Alors bien sûr, il ne faut pas oublier Nelly. Nelly qui a été élevée à Chali. Elle a été élevée à Chali au bout de la Tam, comme elle le disait. Elle vient Nelly d'une famille modeste qui habitait Paris. Et elle a été, on peut dire, en quelque sorte adoptée par la propriétaire de Chali, qui a acheté Chali en 1851, qui est une grande dame, qui s'appelle Madame de Vatry. Monsieur et Madame de Vatry avaient beaucoup d'importance dans le monde politique et artistique de cette période. Et donc, après avoir revendu le château de Stein, donc Madame de Vatry s'installe et va s'occuper de Nelly, à qui elle va faire donner des cours de peinture, oui, puisqu'elle ne peut pas, évidemment, aller à l'école des Beaux-Arts, puisque c'est une femme. La misogynie était encore extrêmement importante à cette période, et on peut même ajouter que les Goncourt en rajouteront un petit peu en disant de Nelly que c'était une peintresse, n'est-ce pas, à la mode. Alors on peut oublier ces propos qui sont pas très galants et parler effectivement de cette boulimie extraordinaire qui se montre à Chali, puisqu'effectivement dans le musée de Chali se trouvent plus de 5000 objets.
Hein, ah oui, j'étais encore modeste.
Voilà. Dont la diversité est très grande, aussi bien pour les supports que pour
les époques.
Les époques, oui. Absolument, oui.
Alors, et aussi des écoles, disons, qui sont représentées, n'est-ce pas, entre l'école italienne, allemande, anglaise, hollandaise.
Oui.
C'est une telle merveille que le temps est malheureusement vraiment trop court pour en sortir quelques trésors.
Oui, alors bien sûr, on va penser à quelques œuvres, on va penser à celles qui participent de l'incantation. Hein. Ah, Botticelli, ah, Giotto, oui, bien sûr, il y a cela à Chali. Mais on va penser aussi au mobilier. Et puis surtout, on aura un autre regard, je pense, sur Chali, en pensant que c'est le musée de Madame. Moi, j'ai cette intime conviction que Paris, le boulevard Haussmann, c'est le musée de Monsieur. Et Chali, c'est le musée de Madame. Et je crois que c'est intéressant, justement, de comparer la mise en œuvre, la mise en place, la mise en scène de ces collections, de comparer les deux sites. L'autre intérêt aussi, c'est que, dans ce qu'on appelle, nous, le château, maintenant, il y a d'autres collections que celles de Nelly Jacquemart. Je pense, entre autres, à celle qui a été acheté par l'Institut de France, donc dans les années 1921, et qui va être installé dans l'abbaye royale de Chali, qui a été léguée, comme vous le disiez fort justement, en 1912 par Nelly Jacquemart. Cette collection, c'est la collection du marquis de Girardin. C'est la collection que nous, on appelle bien sûr la collection Jean-Jacques Rousseau. C'est une espèce de compilation assez hétérogène des objets, des gravures, des planches d'herbier, des manuscrits musicaux, des bustes, enfin disons d'une iconographie assez éclatée du philosophe tout au long donc du 18e, du 19e siècle, même au début du 20e siècle.
Alors je vous propose de faire carrément une autre causerie au sujet de cette collection de Jean-Jacques Rousseau, parce que c'est vraiment extrêmement impressionnant aussi. Mais pour terminer, pouvez-vous nous parler des Journées de la Rose, qui ont donc donné l'occasion à Canal Academy de faire connaissance avec ce domaine magnifique, dont vous êtes un des principaux organisateurs. Vous avez imaginé plusieurs manifestations à l'intérieur de ces journées, et notamment un hommage à Gérard de Nerval. D'ailleurs, Canal Academy va diffuser ultérieurement la conférence du professeur Jacques Bonny, je crois, Jacques Bonny, sur Gérard de Nerval.
Alors, bien sûr, les Journées de la Rose, pourquoi la Rose à Chali? Tout simplement, la Rose mariale, on peut y penser. On parlait tout à l'heure de l'Annonciation, mais surtout la roseraie qui a été installée, je dirais, récemment par un passionné qui s'appelle André Gamard et qui a recréé derrière le mur de Sebastiano Serlio, autre grand architecte de la Renaissance italienne, donc qui a réinstallé une roseraie tout à fait remarquable, avec plus de 80% de roses anciennes. Journées de la Rose, donc, qui ont lieu le deuxième week-end de juin, donc tous les ans.
Alors, et ce depuis plusieurs années.
Tout à fait, c'était notre quatrième édition.
Avec un public extrêmement nombreux et extrêmement heureux.
Oui, bah écoutez, ça c'est notre plus belle récompense.
Oui.
Alors, il y a toujours un thème qu'on essaye de développer, parce que nous ne sommes pas simplement, je dirais, un endroit où on va vendre des rosiers ou je ne sais quelle autre plante à parfum, etc. Ce n'est pas du tout méprisant ce que j'ai dit par là. Mais on veut aussi en même temps mettre en valeur le site dans lequel donc pénètrent les visiteurs. Donc il ne s'agit pas de rivaliser avec Courson ou Saint-Jean-de-Borgard, mais au contraire de mettre en valeur ce site. Et ce site, bien sûr, on ne pouvait pour le mettre en valeur que penser à Gérard de Nerval qui, il y a 150 ans, évidemment, disparaissait pas loin d'ici, donc en se pendant rue de la vieille lanterne. Alors cette animation Nerval n'est pas triste, hein, elle va se décliner sous l'aspect d'une exposition qui va durer jusqu'en décembre, hein, donc qui est ouverte à tous. Et nous accueillons les visiteurs avec beaucoup de plaisir, donc jusqu'en décembre 2005. Ça a été aussi l'occasion d'animation, donc de lecture à haute voix entre un acteur et une violoncelliste, d'une conférence de Jacques Bonny, donc que vous évoquiez tout à l'heure, d'une chaîne de lecture. Nous avons distribué des livres dans l'ensemble du domaine en demandant aux gens qui les prenaient, eh bien, de nous raconter leur histoire après avoir lu ces livres. Et donc, on leur demandait de les déposer dans un autre endroit pour qu'un autre lecteur puisse à son tour devenir, on l'espère, un Hervalien convaincu.
Bon, on ne peut que vous féliciter de ces initiatives qui sont très interactives et qui vraiment favorisent la culture populaire, on peut dire. Merci infiniment Jean-Marc Vasseur. Avec un peu d'imagination, vous avez réussi à embaumer le studio de Canal Académie d'un parfum de rose. Au revoir.
Au revoir et merci encore.